RCN. Écoutez le monde qui bouge.
On écoute le monde qui bouge, 9h10 minutes.
Tu vas faire Shabbat sous ton toit, prier Hazak. Avant monter l'intellect, fais briller ton étincelle une fois par semaine.
Allez, on fait briller nos étincelles comme chaque semaine en ce vendredi 30 mai 2025. Allumage des bougies sur la Côte d'Azur à 20h46. 21h59, ce sera la fin de ce Shabbat. Demain soir, Parashat Bah Midbar, qu'on lira dans toutes les communautés. On retrouve le Rav Mergui pour Ejdat le feu de la Torah. Shalom, shalom, Rav Mergui.
Shalom, shalom, très chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Shalom Nitzan. Shalom à toi, Yossi Ben Avraham.
Shalom, Rav Mergui. Alors, vous nous parlez de quoi aujourd'hui?
Ben écoute, le sujet, il est évident. Nous sommes à la veille de Shavuot. Je pense qu'il est important d'apporter quelques précisions sur la pratique de cette fête qui s'appelle Shavuot. Alors en effet, comme vous le savez, la fête s'appelle Shavuot. Alors c'est un nom curieux, la fête des semaines. On a compté 49 jours, aujourd'hui nous sommes le 47e jour, soit 6 semaines et 5 jours puisqu'on compte les semaines et les jours. Alors on a compté, on compte les jours, cet événement correspond avec la paracha de cette semaine qui va Midbar. Là aussi on va compter les enfants d'Israël par famille, et on va chacun lui attribuer une fonction, une place dans le désert. Et ce qui est intéressant, c'est que revenant à Shavuot, donc on a compté des jours, on a compté des semaines, très bien, ça fait 7 semaines, 49 jours, puis le 50e jour, ça fait des semaines. Dans la Torah, il faut savoir une chose, que ce n'est pas précisé, la Torah ne précise pas que c'est la fête du don de la Torah. Ça correspond au jour du don de la Torah, oui, mais ce n'est pas mentionné clairement dans la Torah, « Zman matan Toratenu ». Alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Chaque fête a un symbole, un siman, une mitzvah. Par exemple, le 15 Nissan, nous savons que le 15 Nissan, c'est la fête de Pessah. La fête de Pessah, quand on parle Pessah, on parle de l'agneau de Pessah. On parle surtout de la matzah, du maror, de la gada. Il y a ce qu'on appelle l'objet de la mitzvah. Ensuite, nous avons Rosh Hashanah, par exemple. Rosh Hashanah, de nouveau, l'objet de la mitzvah, c'est le shofar. Le jour de Kippour, eh bien, nous savons que le jour de Kippour, c'est le jour du jeûne, du 10 Tishri. C'est un grand jour, un jour important dans le calendrier. Ensuite, nous avons la fête de Sukkot, la Souka, le Loulav, le Hadash, Shmini Atzeret, la fête de la Simcha de la Torah. Donc la Torah, elle a donné un programme à mettre en application à l'occasion de ces fêtes-là. Mais lorsqu'on arrive à Shavuot, la Torah ne dit pas qu'il y a quelque chose à faire. La Torah ne dit pas que qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, c'est Yom Tov, c'est un jour de fête. Voilà, c'est un jour de fête. Chag HaShavuot, Chag HaBikurim, la fête des prémices, à partir de laquelle on va porter les prémices. D'ailleurs, il faut savoir que Shavuot, dans la Mishnah, s'appelle Rosh Hashanah La'ilan. C'est le Rosh Hashanah des arbres. La période à Ilan, il y a les fruits sont, c'est le jugement des fruits. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête, en quelque sorte, qui se cache dans ce 50e jour? Alors, Chazal, nos maîtres du Talmud, nos maîtres de la Mishnah, vont dire, eh bien, c'est la fête du don de la Torah. La Torah, en vérité, c'est la fête de la Torah, c'est tous les jours. On étudie la Torah toujours, c'est une mitzvah fondamentale d'étudier la Torah, de connaître la Torah, de vivre la Torah, de la pratiquer, de voir les commandements, etc. Alors là, Chazal m'a fixé un programme. C'est Chazal qui m'a fixé un programme, et même, pas seulement un programme, mais même ce qu'on doit manger. Chalav, principalement du lait. Comme vous savez que le mot chalav, valeur numérique du mot chalav, c'est 40. Puisque Moshe Rabbeinu a passé 40 jours dans le ciel pour recevoir la Torah orale, puisque le jour du 6 Sivan, il y a eu seulement la révélation divine sur le mont Sinaï, mais Akadosh Baruch Hu n'a rien donné ce jour-là, si ce n'est qu'il a prononcé les 10 paroles. Il a prononcé les 10 paroles, mais il n'a rien donné. De Moshe Rabbeinu, le lendemain, le 7 Sivan, est monté sur le mont Sinaï pour apporter le témoignage de ces 10 paroles qui étaient gravées sur des pierres que Akadosh Baruch Hu, si je puis dire ainsi, a fourni et qu'il a gravé dessus les 10 paroles. Ce sont ces 10 paroles que Moshe Rabbeinu a descendu le 17 Tammuz. Or, le 17 Tammuz, malheureusement, les enfants d'Israël ont commis la faute du volant, et c'est le 17 Tammuz que Moshe Rabbeinu va casser les premières tables de la loi. Alors, c'est intéressant de savoir que le jour du Shavuot, il n'y a eu que la révélation divine, qu'il y a eu la prononciation, comme il dit Rashi, ça aussi c'est important, « Vaidaber Elohim et kol advarim ele » Akadosh a parlé toutes ces paroles, les 10 paroles, il les a prononcées à ce que nous appelons à la dimension divine. C'est-à-dire, il a tout prononcé en une syllabe, chose qu'on ne peut pas imaginer, comme on ne peut pas imaginer que lorsque Akadosh pour vous parler, eh bien, l'écriture se marquait, s'écrivait sur, dans le ciel. On voyait la parole « Je suis éternel, ton Dieu ». Mais Akadosh Baruch Hu a dit, les 10 paroles, d'un seul mot, les enfants, ils n'ont rien compris. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va répéter au ralenti les 10 paroles, et il va dire, je suis éternel, ton Dieu. Il nous parle directement à chacun de nous. De même qu'on a été compté chacun séparément, Dieu va nous s'adresser à chacun de nous séparément. Je suis l'éternel, ton Dieu. Chacun doit entendre, je suis éternel, ton Dieu. Je suis éternel, ton Dieu. C'est le premier commandement qui veut dire qu'on doit réciter le schéma tous les matins. Et tous les soirs, puisqu'on dit dans Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est-à-dire je confirme que je suis l'éternel, ton Dieu, c'est confirmé que l'éternel est notre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Là aussi, deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ensuite, le troisième mot, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain. Il n'y a pas marqué, tu ne prononceras pas mon nom en vain, ton Dieu en vain. C'est comme si on parlait à une troisième personne du singulier, puisque les 8 commandements, ce qui suivent, ont été prononcés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, puisque le peuple a dit, je ne peux pas, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Yav Nafshi, Yav Sa'a, Bedabero. Am Israël, au moment où Akadosh Baruch Hu parlait, leur âme a été aspirée comme un aimant, et ils ont rendu leur âme à Dieu. Ils ont rendu leur âme à Dieu. Kabbalah, c'est l'âme, elle se colle avec Dieu. Elle se rattache avec Hachem. C'était ça, le Matan Torah, c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Cette révélation était très 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 forte, très spirituelle, que la Neshama de l'homme, elle a quitté le corps pour se coller à Dieu, si on peut dire ainsi. Alors, nos maîtres nous disent qu'il y a un programme qui s'appelle d'abord une tefila très importante, tefila de Shavuot très importante, de Yom Tov, avec la lecture des 10 paroles. Et là aussi, est-ce que l'usage dans certaines communautés, c'est de se mettre debout. D'autres rabbanim disent, non, il ne faut pas se mettre debout, il faut rester assis, comme toute la Torah. Ou bien celui qui veut se mettre debout, il se met debout avant la lecture, et il se met debout. Mais en tous les cas, c'est pas évident qu'il faut se mettre debout pour faire une différence entre les 10 paroles et toute la Torah. Les 10 paroles font partie de la Torah, et pour certains décisionnaires, donc on reste assis, on écoute les 10 paroles. Alors, il y a les 10 paroles, c'est un moment en tous les cas important pour tout le monde de venir écouter, c'est une espèce de Kabbalat HaTorah, c'est une forme de montrer qu'on est prêt à écouter les 10 paroles, et comme vous savez dans les 10 paroles, il y a marqué « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier », ça occupe une place importante dans notre vie du judaïsme, le Shabbat c'est un fondement de la Emouna. « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère, là aussi c'est un commandement journalier, quand on est à côté de ses parents, on est jeune, alors c'est un commandement, ce mitzvah, de tout instant, lorsqu'on est à la maison, d'honorer, d'obéir à ses parents, de les respecter, de leur parler poliment, de vivre cette mitzvah, c'est puissant, là aussi puissant. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne tueras pas. Ne pas envier le bien de son prochain et ne pas déposer sur toi un faux témoignage, en quelque sorte ne pas mentir. Alors ce sont là les 10 paroles fondamentales qui, en vérité, puisqu'il y a 2 tables, c'est ce qu'on appelle la relation de l'homme avec Dieu, je suis étant entendu, c'est la relation de l'homme avec Hachem, et les autres, ce sont la relation de l'homme avec son prochain. Donc ça englobe tous les 613 commandements, puisque il y a 172 mots, comme le mot Ekev, dans les 10 paroles, 172 mots, tout est compté, pesé, mesuré, et il y a 620 lettres. Il y a 620 lettres qui correspondent au mot Keter, couronne, la couronne de la Torah. Alors, la lecture des 10 paroles, je résume, la veillée, alors il y en a qui restent la veillée toute la nuit, c'est très bien de veiller, à condition, bien sûr, de rester éveillé pour la tefila, de rester éveillé, de faire une bonne tefila, parce que la tefila, c'est quelque chose de fort, de puissant. C'est la tefila, ça occupe une place importante en général, et en particulier le jour de Shavuot. Alors, ensuite, la lecture de la Torah, et on a l'habitude également de lire le livre de Ruth qui nous raconte l'engagement de cette jeune femme moabite qui vient d'un peuple où la Torah fait une distinction entre les hommes et les femmes, parce que les hommes n'ont pas eu la qualité de chesed, n'ont pas eu la qualité de bonté, de générosité, d'accueillir le peuple d'Israël pour laisser passer par leur terre. Mais les femmes qui sont discrètes sont restées chez elles, et donc cette fille qui est une princesse descendante de Balak, descendant du roi Balak, roi de Moab, descendant de Eglon, roi de Moab. Donc c'est une princesse, comme sa sœur était Orpa, également c'était 2 sœurs. Et chacune va se séparer, chacune à un moment donné sur la route, elles doivent se séparer. Mais en tous les cas, le modèle de l'engagement de Ruth est impressionnant. Il est impressionnant. Et elle va se marier avec un homme qui s'appelle Boaz, qui veut dire en lui, il y a le courage et la force de vouloir épouser cette femme, qui, alors que lui c'est un millionnaire, lui c'est un propriétaire, qu'il a plein des champs, qu'il a plein des trucs, très riche, et il va épouser donc une moabite, une convertie, qui est pauvre, qui vient glaner dans son champ quelques épis pour manger. Donc lui il n'a pas vu, il n'a pas vu de ce qu'elle venait, il n'a pas vu sa situation financière, il a vu la richesse d'âme, il a vu cette neshama extraordinaire, cette âme de cette jeune femme qui abandonne toutes ses richesses, son palais royal, pour vivre une vie de Torah. Et c'est ça qui est ce qu'on appelle un exemple de la conversion. Lorsqu'on veut parler de conversion à des personnes, eh bien, on cite toujours l'exemple de Ruth et de Yitro. Il trouve aussi le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui est un exemple dans ce sens, alors que lui, le contraire, lui, alors que lui était grand prêtre de Midian, qui était très riche, eh bien, il quitte son confort, il quitte sa richesse, il quitte ses idoles, il quitte sa Avodazara pour venir vers le Hémet, vers la Torah. Ce sont là, donc, 2 exemples de convertis qui occupent une place importante dans la transmission des valeurs, des midot, des qualités, et c'est ça qui doit nous faire réfléchir pour avancer à notre tour dans la Torah. C'est Kabbalat Torah, ça veut dire c'est la réception de la Torah, on s'engage à recevoir la Torah. Non, on s'engage à recevoir la Torah, c'est pas pour la mettre dans une armoire ou bien dans un tiroir. C'est au contraire, Kabbalat Torah, c'est la mettre dans son cœur, la réceptionner dans son cœur et essayer de vivre pratiquement toute la Torah, qui, comme il dit le Passouk, qui est Mchayenu, Vorech Yamein, c'est pas simplement un livre de connaissances, c'est pas un livre seulement d'apprendre les mitzvot et la Torah, c'est pas ça, c'est plus que ça. C'est qui est Mchayenu, Vorech Yamein, c'est notre vie. C'est ça qui est notre oxygène. Am Israël, l'oxygène de sa spiritualité, de sa vie, c'est l'étude de la Torah. Alors c'est ça qu'il faut aujourd'hui prendre comme engagement, d'étudier la paracha de la semaine, chaque semaine, d'étudier la paracha de la semaine. Si tu étudies la paracha de la semaine, tu dois maintenant passer au niveau supérieur qui s'appelle la Mishnah. Tu as fait la Mishnah, tu passes au niveau d'Agmara. Tu passes au niveau d'Agmara, tu passes au niveau du Midrash. Tu passes au niveau d'étape en étape pour s'élever et se rapprocher. Le but, c'est de se rapprocher de Hachem. Et il faut savoir que la montagne du Sinaï, au moment de la révélation, il y avait des barrières. Il y avait des barrières, il ne fallait pas monter sur la montagne. Il y a des endroits où il faut savoir s'arrêter. Il y a des endroits où il faut savoir se limiter. Il faut savoir progresser avec Chochma. Chochma Tnashi Bantametan. C'est avec intelligence qu'on construit sa maison et c'est avec intelligence qu'on se construit soi-même, progressivement, d'étape à étape. Et surtout, Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yeshua. Yeshua, l'Eskenim. L'Eskenim, la chérie. Il y a une transmission. Ça passe par un canal qui s'appelle le maître. Dans tout endroit aujourd'hui, c'est important d'avoir un maître de référence pour nous guider. Nous sommes dans un monde où on est perdu, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a le IA, il y a l'intelligence artificielle. Alors les gens pensent que c'est ça la Torah. Non, c'est pas ça la Torah. C'est pas la Torah. La Torah, il y a une qualité. Ça s'appelle d'abord la Kedusha, la sainteté. Il y a une autre qualité qui s'appelle la Yirat Shamayim. Il y a la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait la présence d'Hachem. Quand tu réfléchis, je ne réfléchis pas seulement mathématiques, pratiques. Qu'est-ce que je fais? C'est pas seulement qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais en accord avec Hachem, dans l'esprit d'Hachem? Ça s'appelle, en d'autres termes, ça s'appelle Da'at Torah. Avoir la fusion, le Da'at Torah, c'est avoir la fusion avec Hachem. C'est ça, Kabbalat Torah. Alors, on est perturbé par ce progrès. Ce progrès, c'est extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire. Et il y a peut-être répondre des réponses très fortes, même en Torah. Mais il manque une chose. Il manque la Neshama. Il manque une âme intérieure qui va prendre en considération. C'est comme ce juif qui vient poser la question au Rabbi. Rabbi, est-ce que je peux boire le soir de Pessah 4 coupes de lait au lieu de 4 coupes de vin? Et si tu poses la question, je vais te dire ce que tu as, il va te dire non. Mais bien sûr que non. Mais le rabbin a dit, si tu me poses la question, est-ce que je prends du lait, c'est parce que tu n'as pas de viande. Alors il dit, donc voilà 100 euros. Tu vas acheter le vin, les bouteilles de vin que tu as besoin pour toi, pour ta femme. Et tu vas acheter la viande. Parce que si tu dis que tu veux boire du lait, c'est que tu n'as pas de viande. Voilà un exemple, parmi tant d'exemples. Toujours est-il que nous prions qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la paix dans le monde, la paix en Israël, la guérison pour les malades, le retour de la paix dans le monde entier, le monde est en effervescence, à droite, partout, au lieu de chercher le shalom. Or la Torah, c'est aussi shalom bimomav, où il y a ces shalom alen, ou dans le corps Israël moi-même. Je vous souhaite de tout cœur Shabbat Shalom et Shavuot Sameach.
Shavuot Sameach. Merci beaucoup, Rav Mergui. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Et vous retrouvez le cours du Rav Mergui sur rcnradio.info et nos plateformes.